Universel Afrique Midi avec Marie-Pierre Olfan.
La carte Visa Orange Monnaie Côte d'Ivoire, valable partout dans la zone UMOA, vous propose l'émission Appel sur l'actualité. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
La Libre Antenne jusqu'à 10h, heure de Paris, 9h, temps universel, 20 minutes pour revenir sur tous les sujets qui vous ont marqué cette semaine dans l'actualité française, africaine, internationale. Aucun sujet n'est tabou, donc profitez de la Libre Antenne pour vous exprimer. 33 9 693 693 70 et nous allons commencer, puisque vous êtes nombreux à souhaiter réagir à l'arrestation lundi du principal opposant camerounais, Maurice Komto. Plusieurs personnalités de son parti ont également été interpellés. Des arrestations qui, vous le savez, interviennent après des manifestations non autorisées qui se sont déroulées dans plusieurs villes du pays le week-end dernier, mais aussi à Paris, à Berlin. Je vous rappelle que les ambassades camerounaises dans ces deux villes de l'Union européenne ont été saccagées. Claude, bonjour.
Bonjour également à tous vos collaborateurs.
Merci Claude, vous nous appelez de Douala et vous dites que ces arrestations ne sont pas justifiées.
C'est pas totalement justifié. Nous vivons tout simplement à une dérive autoritaire du gouvernement camerounais. Déjà, je voudrais saluer Maurice Komto de là où il est, je sais qu'il nous écoute, et tous les partisans avec qui on l'a arrêté. Je suis très fier de savoir qu'il milite dans l'opposition parce qu'il est une il est un leader de poigne pour l'opposition. Il fait très peur au gouvernement camerounais en ce moment. Et je dis que ce n'est pas justifié parce que le RDPC, depuis très longtemps, est dans la lignée du parti unique. Je vous rappelle qu'en 90...
Oui. Mais Claude, on ne va pas refaire l'histoire du Cameroun, si vous le permettez. On a peu de temps, c'est la Libre Antenne. On aura l'occasion, certainement, la semaine prochaine, de consacrer tout un débat à l'arrestation de Maurice Komto. Mais quand vous dites que ces arrestations ne sont pas justifiées, je rappelle tout de même, et vous pourrez réagir, que ces manifestations, ces marches pacifiques voulues par le mouvement pour la renaissance du Cameroun n'avaient pas eu l'autorisation des autorités. C'était des marches interdites.
Juan, vous le dites si bien, une marche pacifique. Alors, je voudrais vous rappeler que Juan, le RMRC a pris le contre-pied du pouvoir. Ce n'était pas déclaré d'abord et on saurait parler d'une manifestation interdite. Et comment justifier, oui, aujourd'hui on s'acharne sur le RMRC, comment ne pas parler des bavures policières qui ont tiré réellement sur des gens. J'ai entendu le ministre ce matin traiter Maurice Komto de mauvaise foi et que derrière lui-même, il fait la mauvaise foi de reconnaître que les balles qui ont été tirées sur ces manifestants étaient des balles réelles.
Non, il ne l'a pas dit, excusez-moi, René Sadi n'a pas dit, le ministre de la Communication n'a pas dit que les balles tirées étaient des balles réelles. Il a dit tout le contraire et il a profiter de l'occasion pour saluer le professionnalisme des forces de l'ordre, mais il a dit que les balles utilisées pendant les manifestations étaient des balles non létales, qui ne tuent pas, et il a précisé que c'était le genre de balles qu'utilisaient les forces de l'ordre à travers le monde dans ce genre de situation. Donc ne dites pas, Claude, le contraire de ce que le ministre a dit.
Ben, Juan, c'est bien de prendre sa défense.
Je ne prends pas sa défense. Attendez. Non, moi, je veux bien. On débat de tout ce que vous voulez. Vous avez le droit, évidemment, et c'est le principe de cette émission, d'avancer vos propres arguments. Mais vous ne pouvez pas modifier les propos du ministre, des propos que tout auditeur peut réécouter à tout moment sur le site internet de RFI. Et je pense que l'entretien sera rediffusé dans Afrique Midi. Donc, ne dites pas le contraire de ce que nous avons tous entendu, Claude. Après, vous avez le droit d'estimer que le gouvernement a la main dure à l'égard de Maurice Komto et à l'égard de son parti. Quel avenir maintenant pour essayons d'avancer un peu dans la réflexion tout de même sur pour le MRC. Quand on entend les militants dire voilà, on veut la fin de ce parti. Le gouvernement veut la fin de ce parti.
Ça fait encore partie de la dérive autoritaire. J'ai dit que le RDPC est dans la lignée du parti unique. depuis très longtemps, ils sont dans la ligne du parti unique. Et depuis très longtemps, toutes les manifestations de l'opposition sont systématiquement interdites. Le droit le plus essentiel de manifester et d'aller et de revenir est interdit au Cameroun de manière systématique. Mmh. Quand ça concerne le RDPC, c'est autorisé. Comment est-ce qu'on peut faire deux poids deux mesures? Ouais. Alors, je disais la même chose que vous, que oui, effectivement, il dit que des balles ne pouvaient pas tuer. Vous avez vu la vidéo qui est passée sur Internet? Si c'était sur la tête, ça n'aurait pas tué? Mmh. Soyons sérieux quand même. Mmh. Quand
en tout cas, que je ne dis pas, je ne fais que reprendre les propos du ministre et à vous d'argumenter. Ce sont des balles non létales, elles sont très certainement dangereuses. Regardez en France, la polémique que suscite l'utilisation les balles utilisées par les forces de l'ordre pendant les manifestations des Gilets jaunes, elles ne peuvent pas tuer, mais regardez les dégâts qu'elles font. Pratiquement 20 manifestants ont perdu un œil depuis le début de la mobilisation des Gilets jaunes en France. Je voudrais qu'on donne la parole à Willy qui nous appelle de Yaoundé. Bonjour Willy.
Oui, bonjour Juan, et bonjour aux milliers d'éditeurs de RFI.
On vous écoute.
Merci de me passer la parole.
Je vous en prie, allez-y.
Voilà. Moi, j'estimais que M. Kamto, qui est un Camerounais et donc qui a tout à fait le droit d'exprimer ses positions vis-à-vis du développement du Cameroun, a parfaitement manipulé les populations camerounaises au point où celles-ci se sont mises à saccager défiant l'État camerounais depuis la fin des élections d'octobre 2018, où il conteste le résultat de ces élections. J'estime par contre que le traitement aussi de cette information connaît des discordances, en ce sens que on parle beaucoup de deux journalistes camerounais qui ont été pris dans le domicile de M. Nzongan, et on ne parle pas de la journaliste camerounaise d'origine et qui est française et qui a été molestée par les militants du NRC à l'ambassade du Cameroun à Paris. Je trouve que c'est du deux poids deux mesures. Et j'estime donc enfin.
Mais quand Willy, excusez-moi, Willy, il ne s'agit pas de faire un monologue. Willy, quand vous dites que Maurice Kamto, donc le principal opposant, manipule, ce sont vos termes, le peuple, il a le droit de ne pas être d'accord avec les résultats. Il a d'ailleurs saisi le Conseil constitutionnel, qui ne lui a pas donné raison, puisque la victoire du président sortant Paul Biya a été confirmée. Mais Willy, l'opposition a le droit de manifester tout de même. Elle a le droit d'organiser des marches ou pas?
Absolument, elle a le droit, Juan. Mais vous savez très bien que lorsque Boko Haram a commencé à poser de gros problèmes au Cameroun, le Cameroun a voté des lois qu'on a appelées à un moment des lois liberticides.
Liberticides.
Allô? Excusez-moi, je vous en prie. Et même la France a voté de telles lois. Parce que les lois ne sont pas là pour permettre aux personnes de faire exactement ce qu'elles veulent. Oui. Les lois sont faites pour permettre aux autorités de préserver la paix sociale.
Donc en raison de la situation sécuritaire, notamment avec Boko Haram, puisque vous prenez cet exemple, il est normal de limiter l'autorisation des marches. En tout cas, la raison invoquée, c'est le risque de troubles à l'ordre public. Et d'ailleurs, les marches prévues par le parti de Maurice Kamto aujourd'hui, demain et le week-end prochain ont été interdites par les autorités. On aura l'occasion, c'est promis, de revenir sur ce sujet dans les prochains jours. Il y a d'autres sujets d'actualité qui ont retenu votre attention et vous avez été plusieurs de Lubumbashi à nous envoyer des réactions sur le compte WhatsApp de l'émission et sur la page Facebook de l'émission. Ce sont essentiellement des étudiants qui nous ont contactés puisque vous souhaitez témoigner, revenir sur les échauffourées qui ont opposé les étudiants aux forces de l'ordre. Bonjour Jean-Emmanuel.
Oui, bonjour RFI.
Vous êtes donc à Lubumbashi. Je rappelle le bilan lourd des échauffourées. 4 morts, dont un policier qui est décédé après avoir été renversé par un véhicule anti-émeute. Vous, Jean-Emmanuel, vous êtes étudiant et vous avez manifesté en début de semaine.
Oui, oui, monsieur Juan, c'était le dimanche où les étudiants réclamaient le rétablissement du courant et de l'eau au campus. Et là, faisait déjà 3 jours sans courant, sans eau. Et suite à cela, les dimanches, ils ont manifesté pour réclamer le rétablissement de cela, mais le directeur de la SNEL a eu un peu ses raisons. Il a dit que non, il y a eu, et suite à la pluie qui s'est abattue à Lubumbashi, il y a eu à peu près 3 poteaux de la SNEL.
Ouais. Il n'y a pas eu d'eau. En fait, il n'y a pas eu, il y a eu coupure d'eau, coupure d'électricité. On a expliqué ce problème, effectivement, après, suite aux fortes pluies qui se sont abattues sur Lubumbashi. Donc, il y a eu un poteau qui s'est effondré. La tuyauterie qui a connu des difficultés. Et donc, pendant 3 jours, il n'y a eu ni eau, ni électricité. D'où la colère des étudiants. Vous-même, vous avez manifesté, Jean-Emmanuel. Qu'avez-vous vu? Quel a été le rapport de force avec les policiers?
Oui, c'était lundi matin, nous sommes réunis, nous tous, les étudiants internes et les externes, on a eu à manifester, on est parti au gouvernorat pour voir le gouverneur de la province, et il nous a réussi, mais suite à cela, il y a eu toujours des tiraillements entre policiers et étudiants, et ce jour-là, il y a eu même des blessures, des blessés, il y a eu même un étudiant qui a reçu la balle au niveau de la jambe, et on revendiquait nos droits, c'était vraiment terrible, c'était déplorable de voir des militaires armés. Nous, en tant qu'étudiants, on n'avait ni armes ni quoi. On manifestait, on voulait qu'on puisse vraiment nous donner nos gains, mais à cela n'était avec ces échauffourées. C'était terrible ce jour-là.
Réaction disproportionnée de la part des forces de l'ordre. D'ailleurs, le nouveau président Félix Tshisekedi a condamné, je cite, avec force la mort des étudiants. Un acte ignoble de la part d'un officier supérieur de la police, a-t-il dit. L'officier en question, c'est un colonel de la police qui a ordonné de tirer sans sommation sur les étudiants. D'ailleurs, ce colonel de la police a été donc interpellé et il sera jugé, ou il a été jugé, je n'ai pas les toutes dernières informations, par un tribunal militaire. Issiaka, vous êtes également à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, Juan Gomez. Bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Vous êtes également étudiant, c'est bien ça?
Non, ça fait longtemps que j'ai quitté les études, ça fait longtemps que j'ai terminé.
D'accord.
Mais nous avons passé un début de semaine trop mouvementé avec les étudiants. Il y a eu coupure d'eau et d'électricité sur le campus et tout ça, ils ont revendiqué. Et leurs revendications étaient tout à fait fondées par rapport à ça, mais derrière tout ça, il y avait des frustrations. Des frustrations d'argent. C'est-à-dire qu'il y avait des étudiants à Kinshasa qui payaient le minimal à un taux un peu plus bas, c'est-à-dire 920 francs pour un dollar. Et le même minimal, mais ici on devait payer à 1600 francs le minimal. Donc ce sont des frustrations qui couvaient, qui avaient déjà avant, qui faisaient que les étudiants n'attendaient que cette goutte d'eau.
Voilà, c'est ça. J'allais dire la coupure d'eau et d'électricité, c'était la goutte d'eau de trop sur le campus de Lubumbashi. La réaction des forces de l'ordre, elle est dénoncée évidemment par les étudiants, dénoncée par le nouveau président Félix Tshisekedi. Il faut sanctionner sévèrement désormais les forces de l'ordre qui avait pris l'habitude tout de même de tirer comme ça sur les étudiants.
Oui, tout à fait. Vous voyez, c'est la police qui a été longtemps habituée à réprimer les manifestations dans le sang, par la force, tirer dans les manifestants. Voilà, c'était aussi un test pour le nouveau président, le nouveau chef de l'État qui vient d'entrer. Parce qu'il a longtemps lutté dans l'opposition, lutte pour les droits de l'homme, tout ça. Et sa réaction a été très bien appréciée par la population. Par ce qu'il a fait, il a demandé que le colonel puisse répondre de ses actes et lui qui a ordonné qu'on puisse tirer sur les manifestants. Bon. Et cette police-là doit apprendre, elle doit apprendre vraiment à réprimer à bien encadrer les manifestants.
Bien, merci. Issiaka. Issiaka, merci beaucoup. Je vous interromps un peu brusquement, mais voilà, on a abordé que deux sujets et on en avait plusieurs dizaines de sujets sur lesquels vous souhaitiez revenir. Merci à vous. Allez, on va s'intéresser au processus de paix concernant la Centrafrique. Chérubin, bonjour.
Bonjour, Juan.
Bonjour, Chérubin. Coup de théâtre hier. On rappelle que depuis le début de la semaine, les groupes armés et le gouvernement dialoguent, essayent de trouver un accord pour que la paix revienne en Centrafrique. Et puis hier soir, les groupes armés ont décidé de suspendre pour 48 heures leur participation. Ils ont donc lancé un ultimatum au gouvernement et ils annoncent qu'ils reviendront à la table des négociations que s'ils obtiennent une amnistie générale.
Oui, oui, c'est ce que tout le monde a suivi depuis Khartoum. Et on est vraiment indigné d'apprendre une telle nouvelle de la part des éléments de la SELECA. Au fait, pour moi, ce serait mieux qu'ils disent la vérité, que voilà.
Quelle vérité, Chérubin? Je comprends pas bien.
Ils veulent quitter ce groupe qu'ils sont en train de constituer. Parce que si aujourd'hui ils demandent l'amnistie, ils demandent le partage du pouvoir avec le gouvernement, on a déjà assisté à des pareilles choses dans le passé.
Bah c'est ça, excusez-moi, Chérubin, quand vous dites qu'ils disent la vérité, on la connaît tous. Ils veulent l'amnistie, ils veulent le poste de Premier ministre, ils veulent un partage du pouvoir. Voilà ce qu'ils veulent, Chérubin.
Je pense pas. À mon avis,
comment
je
ça, vous
pas.
Pouvez pas.
Alors... pas ce qu'ils veulent.
Ah bon, alors que veulent-ils, Chérubin, que veulent-ils alors?
Ce qu'ils veulent exactement pour moi,
oui.
C'est le contrôle du pays.
C'est le contrôle du pays.
Occuper le poste du président de la République et continuer à faire les désordres dans le pays. Vous êtes sans ignorer qu'au moins en 2013, ils ont occupé la ville. On leur a donné le poste du Premier ministre. Ils ont trouvé des prétextes pour se retrancher dans leur camp. Après, ils ont franchi la ligne rouge. Ils sont venus à Bangui. Ils ont occupé le pouvoir. Ils ont chassé le président Bozizé. Je ne suis pas pour Bozizé. Mais qu'est-ce que Bozizé n'a pas fait de bon pour qu'il puisse chasser Bozizé?
Ouais.
Aujourd'hui, ils sont en train de demander à Touadéra de partir.
Ouais. Donc voilà, c'est-à-dire que vous dites, si on leur accorde l'amnistie, si on leur accorde le poste de Premier ministre, la prochaine revendication, ce sera d'obtenir la présidence de la République centrafricaine. Christian, bonjour.
Oui, bonjour Juan.
Vous êtes d'accord avec votre compatriote Chérubin ou pas du tout?
Non, je ne partage pas du tout son point de vue. Moi, je pense que de toutes les manières, tout ce qui est en train d'arriver à Khartoum, c'était prévisible. Mais c'est dû au fait que nous sommes face à une posture démagogique de la part de la délégation gouvernementale qui se refuse d'accorder l'amnistie, alors que nous savons que sur le terrain, 80% du territoire est occupé par les groupes armés. Ils font des trafics en tout genre, or, armes, diamants, ivoire, etc. Et que s'ils n'ont pas d'amnistie, qui à mes yeux n'est qu'une mesure incitative, je ne vois pas qu'est-ce qui peut les motiver à vouloir déposer les armes.
Oui, c'est vrai qu'ils sont aujourd'hui en position de force. Ils contrôlent 80% du territoire, autant dire que le gouvernement, le président, n'est pas en position de s'imposer ou d'imposer quoi que ce soit. En même temps, vous dites il faut voter une loi d'amnistie, mais avez-vous pensé aux nombreuses victimes depuis le début de la crise, depuis 2013? Que vont-elles dire?
Mais j'y ai pensé, mais justement, Juan, vous savez, quand on lit les statuts de Rome, les statuts constitutifs de la CPI, et il en va de même pour la CPS, qui est une CPI en miniature,
oui.
On s'aperçoit à la lecture de ces documents que même s'ils sont amnistiés, l'amnistie ne portera pas sur les crimes de génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Donc aujourd'hui, leur accorder une amnistie... c'est en réalité aménager des conditions pour leur retour au pays, sans préjudice de poursuite pour les crimes les plus graves.
Oui. Enfin bon, en même temps, vous-même le dites,
les
crimes les plus graves, ce sont les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, ils seront forcément, à un moment donné, poursuivis peut-être par la justice internationale. Le débat est loin d'être clos. Merci à vous, bonne journée, bon week-end à tous. Lundi, on parlera du processus des réconciliations en Côte d'Ivoire, avec évidemment ce qui se passe à la CPI avec Laurent Gbagbo, mais aussi le retour hier d'une cinquantaine de ces militants, dont plusieurs anciens ministres, de retour au pays. pour la réconciliation.